Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La situation actuelle au Liban est encore bien pire que la situation qui existait à l'issue de la guerre civile. Un cri d'alarme de la présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, vient de se rendre au Liban. Elle sera l'une de nos invitées. 6 Syriens, dont 3 enfants, sont morts de soif et de faim en essayant de traverser la Méditerranée. Ils étaient à bord d'une embarcation de fortune. La Russie dit avoir négocié un cessez-le-feu avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au moins 49 militaires arméniens ont été tués dans des affrontements frontaliers. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est mort. Il était âgé de 91 ans. L'invité de Pluriel hier soir était Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, président des Républicains de Seine-Maritime. Selon lui, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est à l'origine de la crise de l'énergie en France, mais le démantèlement du parc nucléaire français. Extrait dans votre édition. Ce gros plan sur la situation des enfants aujourd'hui au Liban. Le pays en proie à une grave crise, notamment économique. La nouvelle présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, vient de se rendre au Liban. Adeline Hazan qui a accordé un entretien à Radio Orient.
Je suis présidente d'UNICEF France depuis 3 mois seulement et j'ai souhaité effectuer rapidement une mission en terrain à l'étranger et j'ai choisi le Liban parce que ce pays est dans une situation absolument dramatique et je trouve que nous n'en parlons pas assez. En tout cas en France, dans les médias, nous n'en parlons pas assez. Cela a été évidemment beaucoup évoqué au moment de l'explosion il y a 2 ans, le 4 août 2020, mais je trouve que les médias ne parlent pas suffisamment de la situation absolument tragique de ce pays et notamment évidemment des enfants de ce pays. Donc ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point ce pays se dirige vraiment, on peut le dire, vers le chaos. Les classes moyennes n'existent plus, il n'y a plus que des classes pauvres ou bien quelques familles encore qui vivent dans des conditions normales, mais les milliers d'enfants qui vivent dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté. Pour vous donner un exemple, les écoles au Liban ont été totalement fermées depuis 2 ans, notamment à cause de la crise sanitaire, mais aussi parce qu'il y a une difficulté majeure à trouver des enseignants. Pour vous donner une idée, à peu près 30% des enseignants ont quitté le pays depuis quelques années, 30% des médecins ont quitté le pays, et en fait, s'il n'y avait pas le rôle des ONG et de l'ONU, en l'occurrence d'une agence de l'ONU comme nous sommes à l'UNICEF, eh bien ce pays serait dans un chaos encore plus grave. Nous avons justement pu assister avec plaisir à toutes les actions que déploie l'UNICEF auprès de ses enfants, que ce soit d'ailleurs dans les écoles, mais par une éducation informelle pour les réhabituer à l'école, ou bien une éducation à la santé, aux gestes basiques pour se protéger, notamment pour malheureusement les enfants qui, très petits, de 6-7 ans, qui travaillent dans les rues. Et pour vous donner là aussi une idée, nous avons croisé plusieurs enfants qui ramassent des bouteilles de plastique dans les rues et qui se font payer 30 centimes pour 40 kilos de plastique. Donc vous imaginez ce que ça veut dire, et que ces 30 centimes, eh bien, ils sont apportés à la famille pour essayer de contribuer à tenter de nourrir un peu la famille. Nous avons également visité, et j'y tenais beaucoup, ça me tenait à cœur, un camp de réfugiés syriens à Baalbek, ainsi qu'un camp de réfugiés palestiniens aux environs de Beyrouth. Et là aussi, nous avons pu constater à la fois les conditions de délabrement absolument épouvantables dans lesquelles vivent ces familles et ces enfants, et en même temps le travail incroyable que mènent les ONG, les agences de l'ONU pour là aussi apporter de l'eau, apporter de la nourriture et essayer de faire un minimum d'éducation informelle pour les enfants, pour leur apprendre, par exemple, à se laver les mains, à éviter de se faire agresser, tout simplement, et les gestes les plus basiques. Et malgré tout ça, par exemple, dans ces camps, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Donc les familles vivent dans le noir à la nuit tombée. Donc vraiment des conditions, je dois dire, encore pires que tout ce que j'avais lu ou imaginé.
Et c'est pourquoi vous avez lancé ce programme de sensibilisation à la promotion de la santé publique.
Absolument, absolument, de façon à ce que les parents comme les enfants puissent être un minimum soignés. Et notamment, nous avons contribué à la réalisation d'un hôpital mère-enfant extrêmement moderne, qui sera d'ailleurs le plus gros hôpital mère-enfant du Moyen-Orient, qui se situe à l'endroit d'ailleurs d'une maternité qui a subi les dégâts de l'explosion du port de Beyrouth il y a 2 ans et qui va être inauguré en octobre ou en novembre dans des conditions qui sont tout à fait enthousiasmantes. Et là aussi, il y a eu évidemment beaucoup de fonds des ONG et également beaucoup de fonds de l'ONU. Il faut savoir aussi que l'UNICEF contribue au Liban à 300 millions de dollars tous les ans, ce qui est énorme et ce qui aide évidemment beaucoup, beaucoup ce pays. Il faut savoir que tout ça s'inscrit également, alors bien sûr, vous l'avez dit, une crise économique et une crise sanitaire, mais s'inscrit aussi dans le cadre d'une situation politique extrêmement précaire, puisque là aussi, par exemple, il y a un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Il va y avoir des élections présidentielles au mois d'octobre, mais on ne sait pas du tout ce qui va en sortir. Donc tout ça sur un fond de situation politique extrêmement instable. Donc en fait, on a 3 crises, une crise politique, une crise sanitaire, et une crise économique d'une ampleur sans précédent.
Et vous soulignez donc les effets dévastateurs de cette crise sur les vies des enfants et des effets notamment sur la santé mentale des enfants. C'est aussi un enjeu important.
Bien sûr, c'est un enjeu important pour nous. C'est un programme important pour nous parce qu'il va de soi, bien sûr, que des enfants ne sont pas allés à l'école du tout pendant 2 ans, qu'on a pu constater malheureusement une augmentation des violences intrafamiliales. Et puis dans les camps, par exemple dans le camp de réfugiés palestiniens que nous avons visité, qui est quasiment une ville, hein, puisqu'il y a 45 000 réfugiés palestiniens, eh bien il y a de la violence, il y a des viols, et là aussi il y a toute une éducation pour les enfants à essayer de se prémunir de ces risques-là.
Les violences intrafamiliales, ce sont des femmes battues, des enfants battus. Comment est-ce que l'on peut agir concrètement face à cela ?
Très concrètement, par exemple, dans ce camp de réfugiés palestiniens de 45 000 personnes, eh bien, il y a quelques îlots, si je puis dire, d'abord de paix et puis d'éducation, où justement l'UNICEF et ses partenaires, l'UNICEF ne travaille pas tout seul, l'UNICEF et ses partenaires ont pu justement installer des salles avec des activités qui ont lieu tous les jours, à la fois pour les enfants et pour les adolescents. Nous avons vu des cours qui sont adressés notamment à des adolescentes, de façon justement à pouvoir les former à des actions qu'elles-mêmes répercuteront dans leur vie de tous les jours et notamment dans d'autres camps où elles sont réfugiées.
Vous avez donc effectué à travers ce déplacement au Liban, ce premier déplacement dans ce pays en tant que présidente de l'UNICEF, un bilan pour évaluer l'impact de cette crise, de cette pauvreté de très grande ampleur. Qu'est-ce qui suivra suite à ce déplacement ?
Nous avons justement d'abord félicité nos collègues de l'UNICEF du Liban. Nous nous sommes félicités aussi de l'importance de la collecte qui a eu lieu dans tous les pays en faveur du Liban. Et puis nous-mêmes en France, nous avions collecté au moment de l'explosion du port de Beyrouth à peu près une somme de 3 millions d'euros. Depuis quelques années, nous avons collecté au profit du Liban à peu près 9 à 10 millions d'euros ou de dollars, enfin peu importe, et nous allons justement répercuter tout cela parmi les donateurs en France, les entreprises en France, nos bénévoles en France, pour leur dire, et je vais leur écrire dans les jours qui viennent, dans une lettre interne, pour leur dire qu'il faut absolument que cet élan de générosité qui a été formidable au moment de l'explosion du port de Beyrouth, eh bien, il ne s'arrête pas parce que la situation actuelle au Liban, elle est même encore bien pire que la situation qui existait à l'issue de la guerre civile qui s'est terminée en 1990 après avoir duré 15 ans.
La présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan. 6 Syriens dont 3 enfants sont morts de soif et de faim en essayant de traverser la Méditerranée. Ils étaient à bord d'une embarcation de fortune. Ces personnes faisaient partie d'un groupe de rescapés secourus au large de l'Italie. Le président égyptien se rend ce mardi au Qatar, une première depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture. Abdel Fattah al-Sissi sera reçu par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al-Thani. La Russie dit avoir négocié un cessez-le-feu avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au moins 49 militaires arméniens ont été tués dans des affrontements frontaliers. Les violences les plus meurtrières depuis une guerre entre les deux pays du Caucase en 2020. L'Arménie dénonce une agression de son voisin. Les États-Unis se sont dit extrêmement inquiets concernant ces attaques. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est mort. Il était âgé de 91 ans, figure de proue de la nouvelle vague. Jean-Luc Godard a signé des films cultes comme Le Mépris, Pierrot le Fou ou encore À bout de souffle. 9 de ces films ont été cités en sélection officielle à Cannes, 6 à la Mostra de Venise. Le président français lui a rendu hommage il y a quelques minutes. Ce fut comme une apparition dans le cinéma français, puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la nouvelle vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie, selon les mots d'Emmanuel Macron sur Twitter. De nouveaux feux de forêt en Gironde. Un incendie a parcouru 1300 hectares de végétation et de forêt à Somos. Les quelques 500 habitants de la commune ont été évacués. Ce nouveau sinistre survient dans un contexte de très forte chaleur. Le comité d'éthique ouvre la voie à une euthanasie strictement encadrée en France. Un avis rendu au lendemain de l'annonce de la création en octobre, le mois prochain, d'une convention citoyenne pour travailler sur le sujet. Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger, selon le propos de l'un des rapporteurs de cet avis. L'invité de Pluriel hier soir était Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, président des Républicains de Seine-Maritime. Selon lui, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est à l'origine de la crise de l'énergie en France, mais le démantèlement du parc nucléaire français. Extrait de cette émission avec Jonas Haddad.
Si on avait maintenu notre parc nucléaire tel qu'il existait, eh bien aujourd'hui on serait un peu les rois du pétrole, sans faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi ? Parce qu'on aurait une électricité pas chère et on serait même en capacité de la vendre aux autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, deux personnes ont délibérément choisi de baisser la part du nucléaire dans notre énergie de 70% à 50%. Ces deux personnes, ça a été François Hollande et Emmanuel Macron. Ils ont pris des décisions qui ont fait que progressivement, on a reculé dans la part du nucléaire et on n'a pas trouvé d'énergie pour la remplacer. Et donc, par exemple, c'est l'illustration d'Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim et qui, contrairement à ce qu'il dit, était parfaitement en état de fonctionner. Et d'ailleurs, pas plus loin que à la rentrée du MEDEF, le patron d'EDF, ce qui est rarissime, a dit lui-même que c'était les décisions politiques des dernières années qui ont provoqué cet effondrement de ce qui marchait bien en France. C'était la vision du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait dit « on veut une vision dans laquelle la France est indépendante, elle dépend de personne, elle crée sa propre énergie ». Et donc on avait de la chance d'avoir cette énergie nucléaire-là. Eh bien Hollande et Macron l'ont sabordé. Et là, pour le coup, ils tiennent une responsabilité très importante dans les difficultés au quotidien de nos concitoyens.
Quand les écologistes disent qu'il faut réduire notre part d'électricité nucléaire, pour vous, ça n'est pas possible ?
Ça n'est pas possible en l'état. Peut-être que demain, une nouvelle technologie existera et qu'elle sera aussi propre que le nucléaire. Les écologistes citent souvent l'Allemagne en matière d'exemple. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, Greenpeace en Allemagne a dit « c'est vrai, on s'est trompé, il faut rouvrir les centrales à charbon ». Il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'une centrale à charbon, ça émet 10 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé une énergie alternative qui est aussi propre que le nucléaire, il faudra m'expliquer pourquoi les écologistes continuent à plaider pour une énergie qui est sale. Voilà, je ne comprends pas. Alors après, si vous interrogez les écologistes et que vous les poussez un peu dans leur retranchement, ils disent « Ah non, en fait, on ne veut pas une écologie propre, une énergie propre. Ce qu'on veut, c'est la décroissance. Ils veulent que tout le monde produise moins et consomme moins. Donc ils veulent baisser notre niveau de confort à tout à chacun. Ça, nous ne le partageons pas. Nous, on considère qu'on peut garder le même niveau de confort, mais en utilisant des énergies propres, en croyant à la science, en croyant à l'innovation, en croyant au progrès, et non pas en retournant en arrière.
Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, président des Républicains de Seine-Maritime. Il était l'invité de Pluriel hier soir, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur votre site internet radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. L'arrivée d'une nouvelle vague de Covid-19 semble se profiler en cette rentrée. Le nombre de contaminations quotidiennes est en constante augmentation depuis une semaine. Selon Santé publique France, cette hausse s'élève à plus 33% de cas, une hausse qui ne se répercute pas encore sur les services hospitaliers. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est précisément 12h16, à 12h30 votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.